Vous écoutez, on lit pour vous.
Pourquoi la grève nous dérange? Un texte d'Émilie Nicolas, paru le 13 novembre 2025 dans Le Devoir. Il était une fois l'histoire du monde ordinaire qui essayait de vaquer à ses occupations tout à fait ordinaires, dans le froid, la pluie et la neige d'un novembre montréalais, alors que la Société de transport de Montréal, STM, était en grève. Or, la grève dérangeait. Tout à fait logique, me direz-vous. C'est ça le principe d'une grève comme moyen de pression. La pression émane de son caractère dérangeant. Sauf que cette grève-ci se passe en 2025. Et en 2025, le monde ordinaire de Montréal est particulièrement pris à la gorge. Il y a une crise du logement, du monde à la rue, des loyers qui explosent, des jeunes qui restent chez leurs parents ad vitam aeternam, faute de moyens, et des propriétaires qui ont acheté en comptant sur des taux d'intérêt qui ne sont pas restés aussi faibles aussi longtemps qu'ils l'auraient cru et qui se sont depuis étouffés avec leurs ambitions d'ascension sociale. House rich, cash poor, comme dit la devise officieuse du néolibéralisme avancé. Il y a aussi du monde ordinaire qui travaille à temps plein, mais qui doit avoir recours, une fois de temps en temps, aux banques alimentaires. Le coût de l'épicerie a explosé, le coût de la vie, de manière générale, s'est emballé. On nous dit que les salaires, tranquillement pas vite, commencent à suivre. Pour ça, il faut que les 10 salaires soient renégociés dans les conventions collectives. Parfois, il y a des grèves. Des grèves qui dérangent. Sauf que, quand le monde ordinaire est déjà à ce point pris à la gorge, une grève expose nécessairement notre capacité à nous faire déranger. Notre résilience collective. Nos bas de laine, en cas d'imprévu. En cette fin d'année, bien des bas semblent en piètre état. Pour les horaires atypiques, les rendez-vous médicaux, les aléas de la vie ordinaire hors des heures de pointe, le monde ordinaire doit parfois avoir recours aux taxis. Sauf que les taxis ne sont plus des taxis ou très peu. Ils se font plus rares que jadis. Ce sont maintenant surtout des Uber. Et quand bien du monde ordinaire demande des Uber en même temps parce qu'il y a une grève, les prix montent. C'est ça aussi la vie sous le néolibéralisme avancé. Bien des pères de famille qui avaient mis leurs économies dans leur permis de taxi comme d'autres s'achètent une maison ont vu leur valeur nette fondre comme neige alors que leur retraite approchait, quand Québec a autorisé Uber. Si on se demande ce qui est arrivé avec cette affaire, la Cour supérieure du Québec a ordonné au gouvernement en juin 2024 de verser 219 millions de dollars de compensation aux ex-propriétaires de permis de taxi, mais Québec a porté le jugement en appel. L'audience est prévue le 25 novembre 2025. Est-il donc permis pour l'État d'appauvrir par voie réglementaire toute une population constituée principalement d'hommes immigrants arrivés au Québec dans des conditions précaires? À suivre. Mais revenons à la grève. Le monde ordinaire a de la difficulté à se payer des Uber, dont les tarifs peuvent tripler. Que fait-on à Québec? Offrir des fonds pour pallier le sous-financement chronique de la STM qui touche le niveau de service que la société peut offrir à la population sans hausser ses tarifs ou lancer ses employés en dessous de l'autobus? Nenni! Réaliser que, si le monde ordinaire a si peu de capacité à absorber le dérangement d'une grève, c'est qu'il faudrait de ce pas, agir sérieusement pour résorber la crise du logement. S'en prendre au coût de la vie? Hausser le salaire minimum? Lutter contre la pauvreté? Non, point. À Québec, on est plus original. Si une proportion inquiétante du monde ordinaire ne peut pas absorber le dérangement d'une grève, ce serait la faute des syndicats. La grève de la STM et le dérangement qu'elle occasionne seraient le moment idéal pour accélérer la mise en place de mesures législatives visant à limiter les moyens de pression dont disposent les syndicats pour négocier de meilleurs salaires au monde ordinaire, désormais trop pris à la gorge pour absorber les effets d'une grève d'autres travailleurs. Vous le voyez, le serpent qui se mord la queue? La loi 14, dont le ministre du Travail, Jean Boulet, veut accélérer l'entrée en vigueur, donne au gouvernement des outils pour limiter le droit de grève et les autres moyens de pression dont disposent les travailleurs pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité. Si le texte vous semble vague, c'est qu'il l'est. Et c'est là le même cercle vicieux. Plus le monde ordinaire est rendu vulnérable par son incapacité à se négocier des salaires décents, plus le monde ordinaire est considéré comme trop vulnérable pour que le gouvernement laisse les travailleurs du monde ordinaire faire la grève. Cette loi 14 a joué un rôle dans l'existence même de la grève de la STM. Son entrée en vigueur imminente a créé une forme de date limite pour l'accès au droit de grève. Elle incite les employeurs à ne pas négocier en laissant filer le cours des jours et incite les syndicats à risquer le tout pour le tout avant qu'il ne soit trop tard. Cette grève, à bien des égards, c'était l'œuvre de Jean Boulet. Avec la loi 14, ce droit risque fortement de devenir théorique dans bien des cas. Ce n'est qu'en 1964 que le Code du travail a accordé le droit de grève aux employés du secteur public et parapublic. Si aujourd'hui, on ne veut pas que les employés de la STM désorganisent le monde demain, qui se verra refuser le droit de se négocier des conditions de travail décentes? Il était une fois, donc, un ministre du Travail qui souhaitait que les travailleurs se désolidarisent des travailleurs. C'était l'histoire d'un moment de vulnérabilité collective, comme il en arrive souvent dans le gris de novembre, où l'on tenta de convaincre le monde ordinaire que ce serait une excellente idée de s'enlever des droits à lui-même. C'était « Pourquoi la grève nous dérange ?» un texte d'Émilie Nicolas, paru le 13 novembre 2025 dans Le Devoir.
Historique de navigation, faux courriel et e-SIM de voyage. Un texte d'Alain McKenna paru le 1er octobre 2025 dans La Presse. Notre journaliste répond aux questions des lecteurs en lien avec le numérique et les nouvelles technologies. Cette semaine, on s'interroge sur l'effacement de l'historique de navigation, on essaie d'éviter les arnaques dans les courriels frauduleux et on revisite les cartes eSIM pour voyageurs. André Letourneau demande « Est-ce prudent d'effacer l'historique de navigation après être allé sur le site de ma banque? » La réponse courte: ce n'est pas la mesure de sécurité la plus efficace. C'est un peu comme verrouiller la porte de la remise et laisser la porte de la maison grande ouverte. L'effacement de l'historique vous protège principalement contre une personne qui aurait un accès à votre ordinateur. Cette personne ne saura pas que vous avez consulté le site de votre banque. Cela ne vous protège pas des menaces qui circulent sur l'Internet. Votre historique de navigation ne contient que l'adresse du site visité, jamais vos identifiants ou votre mot de passe. Le risque principal est l'hameçonnage. Un courriel frauduleux vous incitant à cliquer sur un lien qui imite à la perfection le site de votre banque pour vous voler vos accès. Un autre risque majeur est l'installation, à votre insu, d'un logiciel malveillant sur votre ordinateur qui enregistrerait tout ce que vous tapez au clavier. Que faire? Assurez-vous d'avoir un mot de passe long, complexe et unique pour votre compte bancaire. Activez l'authentification à deux facteurs. Si un fraudeur vole votre mot de passe, il ne pourra pas se connecter sans ce deuxième code. Noara Bella demande. Je reçois des courriels me demandant de payer pour que mes photos et infos sur mon iCloud ne soient pas effacées et mon compte bloqué. Je paye mensuellement pour avoir cet espace. Même si je détruis ces courriels, ils continuent à envahir ma boîte. Comment m'en débarrasser? Vous avez tout à fait raison d'être exaspéré par cette situation, et votre instinct est le bon. Il s'agit d'une arnaque grossière. Ces courriels sont conçus pour créer un sentiment de panique et vous pousser à transmettre vos renseignements personnels. Soyez rassurés, les fraudeurs derrière ces messages n'ont aucun contrôle sur votre compte iCloud, Google Photos ou Microsoft OneDrive. Ils envoient des millions de courriels identiques et espèrent qu'un petit nombre de personnes effrayées tombent dans le panneau. Votre adresse courriel s'est probablement retrouvée sur une de leurs listes à la suite d'une fuite sur un autre site, il y a des mois ou des années. Supprimer ces messages est une bonne mesure d'hygiène, mais c'est une action passive. Bloquer l'expéditeur est peu efficace, car les fraudeurs changent constamment d'adresse. Vous pouvez utiliser la fonction « signaler comme indésirable » ou « signaler comme hameçonnage » de votre service de messagerie, Gmail, Outlook, etc. Ce clic est plus puissant. En signalant le message, vous le supprimez et vous entraînez le filtre de votre boîte de réception à identifier comme malveillant ce type de courriel. Après quelques signalements, votre service de messagerie apprendra à identifier ces menaces et les enverra automatiquement vers votre dossier de pourriel. C'est la meilleure façon de reprendre le contrôle et de faire taire ce bruit de fond numérique. Linda Daou demande « Comment fonctionnent les eSIM et comment les utilise-t-on en voyage? » La carte eSIM menace de remplacer tranquillement la petite carte SIM en plastique que nous connaissons tous. Le E signifie « embedded », intégré. Sa fonction est de vous identifier et vous connecter au réseau d'un fournisseur cellulaire. Elle est programmable à distance. C'est là que la magie opère pour les voyageurs. Fini la chasse à la carte SIM dans un kiosque à l'aéroport. Avant de partir, vous pouvez magasiner en ligne un forfait de données pour votre pays de destination auprès de fournisseurs comme Airalo, Simeo ou auprès d'un fournisseur local. Une fois le forfait acheté, vous recevez un code QR directement dans l'application ou par courriel. D'autres applications vont installer automatiquement le SIM dans les réglages cellulaires de l'appareil sur lequel vous faites la transaction. Sinon, sur votre téléphone, vous allez dans les réglages cellulaires et choisissez « Ajouter une eSIM ». Balayez le code de QR avec votre caméra et le forfait s'installera sur votre appareil. Il ne reste qu'à l'activer une fois à destination et à le sélectionner comme connexion par défaut pour l'envoi et la réception de vos données. La plupart des téléphones récents peuvent gérer plusieurs forfaits simultanément. Vous pourriez conserver votre ligne principale active pour recevoir des appels ou des messages textes importants, tout en utilisant les données de votre eSIM de voyage pour naviguer sur le web et utiliser des applications comme Google Maps à une fraction du coût de l'itinérance. C'était historique de navigation, faux courriel et eSIM de voyage. Un texte d'Alain McKenna, paru le 1er octobre 2025 dans La Presse.
COP 30, libre de s'engager. Un texte signé Chantal Srivastava, publié dans l'actualité édition de décembre 2025. L'objectivité est au cœur de la démarche scientifique. Dans ce contexte, comment les experts en sciences du climat doivent-ils réagir quand un chef d'État déclare, devant l'ONU, que, citation, « le changement climatique est la plus grande arnaque de l'histoire » Depuis le temps que ces scientifiques sonnent l'alarme, on peut comprendre leur impatience. Nombre d'entre eux convergent ces jours-ci vers l'Amazonie pour la 30e conférence des parties qui se tient en novembre. Cette rencontre internationale rassemble chaque année, depuis 1995, des milliers de participants sous l'égide des Nations Unies afin d'orchestrer la lutte contre les changements climatiques. 30 ans de négociations épaulées par une armada de scientifiques recrutés par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Sur une base bénévole, ceux-ci font le point sur l'état des connaissances afin d'éclairer les décideurs. Il y a 30 ans, le doute avait encore sa place. Mais aujourd'hui, le consensus scientifique est clair. Les humains sont responsables de la hausse des concentrations de gaz à effet de serre et des bouleversements qui en découlent. Pourtant, au vu des déclarations qui concluent ces grands messes climatiques, des textes négociés durant des mois, c'est à se demander si la science ne prêche pas dans le désert. Trump ou pas? Pour dénoncer la lenteur des progrès, certains sont passés de la parole au geste d'éclat, comme lors de la COP 26 à Glasgow en 2021, où une vingtaine de membres du groupe scientifique Rébellion, des scientifiques qui militent pour l'environnement, ont été arrêtés après s'être enchaînés à un pont. Loin de faire avancer la cause, de tels actes de désobéissance civile jettent de l'huile sur le feu. Et ils offrent des munitions aux climato-sceptiques qui dénoncent depuis toujours les conclusions d'une science qu'ils accusent d'être biaisée. L'engagement extrême des membres de Scientific Rebellion repose néanmoins sur des données probantes. Ils cristallisent un sentiment d'urgence. Reste à savoir jusqu'où les scientifiques peuvent s'engager pour promouvoir une cause, aussi fondée et noble soit-elle. Cette posture ingrate mène à une foule de questions aux réponses pas évidentes. Doivent-ils se limiter à présenter leurs résultats? Peuvent-ils exprimer leur désarroi face à l'inaction en ce moment d'urgence? Comment concilier leur neutralité et leur responsabilité comme scientifiques? Quels effets aura sur leur crédibilité la position qu'ils adopteront? Et qu'en est-il de leur liberté comme citoyens? Des risques de prêter flanc à la critique? Ou pire encore, d'être victime d'intimidation? En cette ère où les opinions priment trop souvent les faits, la science doit faire entendre sa voix sans pour autant s'engager sur une pente qui peut devenir très glissante. Le climatologue Alain Bourque, directeur général d'Uranos, un consortium de recherche et de transfert de connaissances sur l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, s'est donné un code de conduite. Citation. Je ne participe pas aux manifestations pour le climat, même si certains de mes collègues le font. Et quand on me demande de signer des lettres ouvertes, je refuse, même si je me permets parfois de dire aux gens que leur lettre est très bien construite. Car je dois préserver à tout prix mon impartialité si je veux continuer à être crédible auprès de mes multiples interlocuteurs. Fin de citation. La crédibilité, une notion clé, tout comme la transparence. Et ce, peu importe les motivations, les priorités ou la finalité, qui varient selon qu'un scientifique œuvre au sein d'un organisme non gouvernemental, d'une multinationale, d'un ministère ou d'une université. Le Centre national de la recherche scientifique en France a publié en juin le guide de l'expression publique des scientifiques du CNRS, afin de clarifier les règles pour ces chercheurs, citation, qu'ils exposent au public les résultats de leurs travaux de recherche ou qu'ils expriment des opinions engagées. Fin de citation. Parmi les règles d'or mises en avant, le scientifique doit s'interroger sur sa légitimité et s'abstenir d'intervenir comme expert hors de son champ de compétences. Il doit aussi clairement préciser dans ses propos ce qui relève de son expertise et ce qui repose sur ses convictions personnelles ou ses valeurs. Et parfois, savoir quand renoncer à son titre de chercheur patenté rattaché à un établissement pour plutôt donner son opinion comme simple citoyen. Le guide d'une trentaine de pages ratisse large. Au-delà des enjeux éthiques, sur un plan plus concret, il propose aux scientifiques des trucs pour mieux s'exprimer et interagir avec les journalistes et le grand public sur les réseaux sociaux. Autant de pistes pour faciliter la diffusion des données basées sur la science dans un univers de plus en plus polarisé. Un outil précieux et inspirant. Fin de cette chronique de Chantal Srivastava, titrée COP 30 libre de s'engager, publiée dans l'actualité, édition de décembre 2025.
Ken Follett à Stonehenge, un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 octobre 2025 dans la presse. Le dernier roman du roi du best-seller historique, Le Cercle des Jours, tout juste arrivé en librairie, remonte loin dans la préhistoire et s'intéresse à Stonehenge, ce lieu énigmatique du Royaume-Uni où on trouve d'imposants monolithes. Ken Follett en profite pour explorer le patriarcat, les premiers échanges commerciaux et la naissance de la guerre. Entrevue. Pourquoi vous êtes-vous penché sur Stonehenge? Je m'intéresse à Stonehenge depuis que j'en ai entendu parler, quand j'étais enfant. Mais l'idée d'un roman m'est venue plus récemment. J'ai lu le livre « How to build Stonehenge » de l'archéologue Mike Pitts. J'ai eu l'impression que c'était carrément un livre de Ken Follett. J'ai lu son livre et mon instinct a été confirmé. Mike Pitts est devenu l'un de mes consultants historiques pour le Cercle des Jours. Comment avez-vous reconstruit la manière dont les pierres de Stonehenge ont été transportées jusqu'au site? À l'époque, il n'y avait pas de roues ni de harnais pour les animaux de trait. Alors la seule manière de déplacer les grosses pierres de Stonehenge, qui provenaient de 30 km de là, était de les tirer avec des cordes. Des centaines de personnes devaient participer. Il fallait planifier l'itinéraire pour éviter les côtes. Quand il y avait une côte, on construisait des routes de rondins. Dans le livre de Mike Pitts, on voit des exemples contemporains de cette approche en Indonésie. Vos livres « Le cercle des jours » et « Les piliers de la terre » témoignent de votre fascination pour l'ingéniosité et la technologie humaine, alors que la trilogie du siècle et certains des romans du cycle de la cathédrale de Kingsbridge se penchent plutôt sur les transitions socio-économiques. Quel est le lien entre les deux? Ce lien a évidemment été pour la première fois énoncé par Hegel, puis par Marx, qui a inversé la conclusion de Hegel. Je suis plutôt marxiste. Je pense que la technologie change la société, plutôt que l'inverse, comme le disait Hegel. À Stonehenge, il s'agit de la technologie des outils de pierre. Les meilleures pierres taillées doivent être tirées de mines qui ressemblent à des mines de charbon. Il m'apparaît évident que les gens qui extraient des outils de pierre des mines n'ont pas le temps de cultiver ou de chasser. Alors ils doivent échanger leurs pierres contre de la nourriture. Il faut donc que soient créés les premiers marchés. C'est le début du commerce. Vous dépeignez une secte de prêtresses qui sont les gardiennes des savoirs astronomiques et des saisons. Est-ce la première fois que vous dépeignez la religion de manière positive? La religion a de bons et de mauvais côtés. Elle a toujours été associée au savoir. Au Moyen Âge, les moines écrivaient des livres, conservaient le savoir des générations précédentes. Ils étaient pratiquement les seuls à pouvoir lire. C'est la même chose dans les grandes librairies musulmanes en Égypte et en Afrique du Nord. Je suggère que durant la préhistoire, les premières connaissances astronomiques, les mouvements du soleil et de la lune, les saisons, ont été préservées oralement par une caste de prêtresses. Les pierres de Stonehenge sont clairement orientées vers l'aube du solstice d'été et le crépuscule du solstice d'hiver. La religion et la science étaient liées. Évidemment, il y a d'autres aspects de la religion comme les tueries, la torture, l'oppression. Quelle est la base historique de votre portrait des mineurs, des chasseurs-cueilleurs, des éleveurs et des agriculteurs? De ce qu'on sait des premières sociétés, il est certain que ces quatre types de communautés ont existé. Je pense que leur mode de vie affectait leur conception de la propriété. Les agriculteurs, par exemple, devaient compter sur des champs qui leur appartenaient et considéraient que leur récolte était leur propriété. Donc, leurs maisons, leurs animaux de basse-cour aussi leur appartenaient. Les éleveurs devaient avoir une organisation sociale différente, parce qu'il était impossible à l'époque de différencier quel mouton, quelle bête était à qui. Il a fallu attendre le métal pour marquer les bêtes ou alors la peinture pour la laine des moutons. Ils avaient donc une vie communale avec moins de concurrence et plus de coopération. Comment sait-on que des guerres ont déjà été liées à Stonehenge? Les guerres partout et depuis toujours concernent le contrôle du territoire. Ce qu'on sait historiquement, c'est qu'il y a des sites où on a trouvé des milliers de pointes de flèches et de lances. C'est impossible que ce soit lié à la chasse. La plaine de Salisbury, à Stonehenge, n'est pas propice à l'agriculture. Il faut rester près des rivières, là où les éleveurs doivent faire boire leurs animaux. J'ai imaginé une guerre à partir des faits historiques connus. L'inspiration. How to Build a Stonehenge de Mike Pitts. Le livre qui a convaincu Ken Follett de s'immerger dans le monde des bâtisseurs de Stonehenge vaut la peine d'être lu. En plus d'analyses savantes et passionnantes sur les technologies possibles et probables, on y trouve beaucoup de photos qui permettent de mieux comprendre cet endroit. En savoir plus. Source English Heritage. 3100 à 1600 avant Jésus-Christ. Date de construction de Stonehenge. 17. Nombre de pierres les plus anciennes et les plus grandes de Stonehenge qui sont encore présentes, sur la trentaine d'origine. C'était Ken Follett à Stonehenge. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 4 octobre 2025 dans la presse.